Le journal Yves Decamp, bonjour.
Bonjour. Un accord à minima au sommet du G20 à Osaka. 19 pays réaffirment leur engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique sans les États-Unis et sans avancée notable par rapport à l'accord de Paris. Mais pour Emmanuel Macron, le pire a été évité. Accord conclu entre l'Europe et les pays du Mercosur, notamment le Brésil et l'Argentine. Après 20 ans de tractations, le nouveau traité de libre-échange devra être ratifié par les 28 États de l'Union. Historique pour Jean-Claude Juncker, le président de la Commission. La FNSEA dénonce en revanche une concurrence déloyale pour les éleveurs français. Une journée moins accablante dans le sud, mais plus chaude encore qu'hier dans le centre France et la région parisienne. Entre 37 et 40 degrés, nous dira Jean-Michel Golinski. Déjà, les Parisiens sont allés ce matin chercher un peu de fraîcheur en forêt. Attention dans le Gard, où plus d'une cinquantaine de départs de feu ont déjà été comptés dans la seule journée d'hier. Dans ce journal également, l'arrestation de Carole Racketeux à Lampedusa, la capitaine du navire humanitaire Sea-Watch, chargée de migrants, a bravé l'interdiction du gouvernement italien. La marche des fiertés des dizaines de milliers de personnes attendues dans les rues de Paris tout à l'heure pour défendre notamment la PMA pour toutes les femmes. Et puis la fin du rêve pour les Bleus en Coupe du Monde de foot. Les Françaises battues 2-1 par les Américaines, mais le foot féminin a trouvé son public et TF1 a fait sa meilleure audience de l'année. Enfin, la prescription culture du week-end. Nous irons à l'exposition d'Ora Maar au Centre Pompidou à Paris. Elle est à la une depuis plusieurs jours déjà et la canicule reste d'actualité ce week-end, notamment en région parisienne où ce samedi devrait être la journée la plus chaude. On va y revenir. C'est dans ce contexte que les grands de ce monde s'étaient réunis à Osaka au Japon pour le grand raout annuel du G20. Et bonne nouvelle, le pire a été évité, en tout cas pour le président Macron, qui a salué tout à l'heure l'accord du G20 sur le commerce et le climat. Les lignes rouges fixées par la France n'ont pas été franchies, a-t-il dit. C'est un accord à minima, en tout cas consigné à 19 des pays les plus riches de la planète, sans les États-Unis, un texte qui réaffirme leur engagement à mettre en œuvre l'accord de Paris de 2015. C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Dominique André, vous êtes à Osaka, au Japon, où s'est conclu ce matin ce G20. On n'a pas avancé d'un pouce, mais on n'a pas reculé, disons.
Oui, on peut dire aussi que c'est finalement une victoire pour la France et pour les Européens qui ont constitué un front uni pour résister et l'emporter face aux États-Unis. La bataille a été difficile. Les discussions autour de la table avec les Américains ont été dures. Elles se sont interrompues la nuit dernière pour reprendre tôt ce matin. En fait, jusqu'au dernier moment, les équipes de Donald Trump ont tenté de recruter des pays émergents comme la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Brésil ou l'Australie pour qu'ils se rallie à la position américaine, c'est-à-dire en fait claquer un jour la porte de l'accord de Paris. Mais les Européens se sont battus jusqu'au bout. On a évité de reculer, c'est féliciter le chef de l'État français, même s'il faut bien le reconnaître, la victoire est petite, c'est vrai, au regard des enjeux. Je vous propose d'écouter un extrait de la conférence de presse qui vient de se tenir, donc avec Emmanuel Macron.
Les scientifiques, chaque jour, nous rappellent à nos devoirs. Notre jeunesse, chaque semaine, dans beaucoup de pays, nous rappelle à notre devoir. Je pense que si on veut collectivement gagner en crédibilité, il nous faut passer une étape. Nous avons réussi à obtenir des éléments dans le cadre du communiqué du G20 qui permettent de maintenir le niveau d'ambition tel qu'il avait été affirmé à Hambourg et Buenos Aires. Très concrètement, nous avons réitéré une déclaration à 19, actant précisément de l'engagement de tous les membres du G20 à l'exception des États-Unis d'Amérique pour la mise en œuvre de l'accord de Paris.
Voilà, Emmanuel Macron ce matin à Osaka. Alors, autre conclusion notable de ce G20, Dominique, à propos des relations bilatérales entre les États-Unis et la Chine, Donald Trump et Xi Jinping ont décrété la trêve commerciale.
Oui, alors Donald Trump et Xi Jinping ne s'étaient pas vus depuis novembre dernier et donc très rapidement après cette réunion, l'agence de presse officielle Chine Nouvelle a annoncé que les négociations allaient reprendre, toutefois sans donner de calendrier. L'autre résultat positif tout de même pour la Chine, c'est que Donald Trump renonce à imposer des tarifs douaniers supplémentaires sur les importations chinoises sur 300 milliards de dollars de marchandises. Donald Trump a ensuite confirmé ses avancées, mais le plus important, c'est après le sommet, lors de sa conférence de presse, le président des États-Unis a surtout annoncé que les entreprises américaines pourraient continuer de vendre leurs produits au géant chinois des télécommunications Huawei. Or, le mois dernier, on se souvient que Washington avait interdit aux entreprises américaines de commercer avec Huawei pour des raisons de sécurité, craignant en fait que le groupe chinois récupère des technologies américaines sensibles. C'est donc une concession importante qui est faite par Donald Trump aux Chinois. En revanche, on peut quand même signaler que Huawei n'a toujours pas le droit de vendre sa 5G sur le sol américain.
Dominique André avec Nicolas Mathias à Osaka. Au même moment, autre accord international important, qualifié même d'historique par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, un traité de libre-échange que l'Europe négociait depuis 20 ans avec les pays du Mercosur, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay. Accord également salué très prudemment par Emmanuel Macron qui dit vouloir lancer une évaluation indépendante du texte. Le gouvernement sera vigilant, précise le chef de l'État, sur la rédaction finale et le processus de suivi, car l'Union européenne a décidé d'ouvrir son marché notamment à la viande de bœuf sud-américaine. Le Mercosur, lui, ouvrira le sien aux vins spiritueux et produits laitiers européens. Lex Milota à Bruxelles.
Il concerne 770 millions de consommateurs. Cet accord permettra d'éliminer de nombreux droits de douane entre les deux parties au niveau industriel et agricole, mais il concerne aussi les services, les mesures sanitaires et la propriété intellectuelle par exemple. C'est un réel message en soutien à un commerce ouvert, équitable et durable, affirme le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Mais le texte suscite l'inquiétude des agriculteurs européens qui craignent une concurrence déloyale, notamment concernant le bœuf. L'accord permettra aux pays du Mercosur d'exporter 99 000 tonnes de viande bovine en Europe sans droit de douane chaque année. Critique également de la part de 340 ONG européennes et sud-américaines. Elles déplorent la détérioration des droits de l'homme et de l'environnement. Les forêts et les droits des travailleurs seront respectés, répond la Commission. L'accord doit encore être approuvé par les 28 États membres et le Parlement européen. Bruxelles, Lex Milota, France Inter.
En Italie, les migrants du Sea-Watch ont débarqué ce matin à Lampedusa. 42 migrants conduits dans un centre d'accueil. 11 autres avaient été remis aux gardes-côtes italiens pour des raisons médicales. Le navire humanitaire de l'ONG allemande, bloqué dans les eaux internationales depuis plus de 2 semaines, avait fini par s'amarrer au port de Lampedusa, où la capitaine du Sea-Watch, Carole Racketeux, a été arrêtée, Olivier Tosseri.
La situation à bord était plus désespérée que jamais, estimait Carola Racketeux, la capitaine du Sea-Watch 3, navire affrété par une ONG allemande, a bravé l'interdiction des autorités italiennes à l'aube. Il est entré dans le port de Lampedusa, faisant débarquer les 42 migrants. Carola Racketeux a immédiatement été arrêtée, comme le souhaitait Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, qui résumait en ces termes la situation.
Il y a le Sea-Watch avec la nouvelle héroïne de la gauche, cette capitaine qui dit « Je suis blanche, riche et allemande, je ne savais pas comment occuper mon temps libre, alors je vais aller en Italie, leur casser les couilles ». Ce ne sont pas des humanitaires, mais des preneurs d'otages, des pirates qui utilisent des innocents pour mener une bataille politique. Moi, en 2019, je n'accepte pas les bateaux pirates.
Carola Racketeux est visée désormais par une enquête pour aide à l'immigration clandestine et non-respect de l'ordre d'un navire militaire de ne pas pénétrer dans les eaux territoriales italiennes. Elle risque jusqu'à 50 000 euros d'amende, la saisie du navire et de 3 à 10 ans de prison. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Et les migrants débarqués à Lampedusa seront transférés dans 5 pays d'accueil, dont la France.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamps.
Ce sera donc la journée la plus chaude dans le centre France et à Paris. C'est en tout cas ce que nous dit Météo France et ce que nous dira tout à l'heure Jean-Michel Golinski. La vigilance rouge a été levée dans le sud, mais les fortes chaleurs venues du Sahara restent sur le pays où seules les pointes de Bretagne et du Cotentin sont relativement épargnées. Le niveau 3 du plan canicule reste en vigueur dans la capitale où la principale occupation ce matin déjà, c'était de chercher la fraîcheur. Fraîcheur que beaucoup sont allés trouver en forêt, en famille.
Regarde ici, tu vois, c'est une écorce. Tu la regardes, l'écorce ?
C'est toujours un lieu de fraîcheur, la forêt. Encore plus utile quand il fait des températures comme celle-là.
Ce qui est vert, c'est de la mousse.
Vous allez faire quoi, là ? Bah, se balader, respirer le bon air, profiter un peu de la fraîcheur tant qu'il en reste un peu, et voilà. Est-ce que vous avez une idée de combien il fait, là ?
25.
Alors que dans votre appartement, il faisait combien ?
27, 28, là, le matin. Ça change tout, quoi.
L'après-midi va faire un petit peu plus chaud, je trouve.
Bonjour.
Bonjour, Nicolas.
Allez, pour France Inter.
Non.
Vous venez de descendre de voiture avec 2 enfants et la grand-mère.
Une grand-mère. Là, on cherche le frais. Au départ, moi, je me suis dit, on va aller à la mer, je vais les emmener à Deauville. Sauf que le problème, c'est que je me suis rendu compte que c'était les départs en vacances. Donc, si c'est pour se taper les bouchons et la forêt, finalement, ils sont contents, ils se baladent, il fait frais. Sauf qu'il fait quand même chaud, d'après ce que vous entendez.
Et la grand-mère, alors ?
La grand-mère, elle suit. Je dois dire que je suis assez contente d'être dans la forêt, à courir après mon petit-fils.
Ah oui,
on peut faire la course. 1, 2, 3, on y va.
Mauvaise idée de courir quand il fait chaud. Reportage de Julie Pietri en forêt de Meudon. Conséquence aussi de cette canicule, une soixantaine d'incendies dans le département du Gard qui était hier en vigilance rouge. Près de 600 hectares, une douzaine d'habitations détruites. Ce matin, 6 feux étaient encore sous surveillance. L'un des incendies a touché un lotissement sur la commune de Saint-Gilles où tout un quartier a dû être évacué. Marie-Christine Loriol.
Des squelettes d'arbres calcinés, des jardins recouverts de cendres et des murs noircis par les flammes, le lotissement du Ventouré a été littéralement encerclé hier soir. Le feu est parti de plusieurs endroits, comme en témoigne Céline.
Ça a fait plusieurs départs de feu et ça s'est propagé, du coup ça a encerclé tout le lotissement. Donc mon mari était dans le jardin avec le tuyau pour essayer de tout arrêter. On a eu peur au début parce que on était avec le petit de 3 ans qu'il a fallu mettre à l'abri. On est passé à travers les flammes pour quitter la maison, on nous a évacués avec le haut-parleur.
Sur la cinquantaine de maisons, aucune n'a été détruite, mais les dégâts matériels sont importants. Pascal, qui a passé la nuit chez ses enfants, est venu les constater.
La maison, moi, la mienne n'a rien. Bon, moi, le jardin est un peu morflé, une voiture en moins, mais bon, ça va dans l'ensemble. Les pompiers ont sauvé ma maison, je remercie, parce que franchement... c'est chaud.
La température est retombée aujourd'hui dans le département, mais ce n'est que le début de l'été. Il faudra être vigilant, dit le maire Teddy Valadier.
C'est un été qui s'annonce extrêmement chaud, avec peu de pluie dans l'hiver et au printemps. Donc j'appelle chacune et chacun à avoir aussi des comportements responsables tout au long de cet été.
En fin de matinée, des canadaires intervenaient encore pour noyer les derniers foyers. À Saint-Gilles-du-Gard, Marie-Christine Loriol, France Inter.
Et l'un de ces incendies d'hier avait été volontairement provoqué sur la commune de Quissac par un individu déjà connu pour des faits similaires. Il a été placé d'office en hôpital psychiatrique. De Montparnasse à République, cet après-midi à Paris, une gay pride ou marche des fiertés qui devrait rassembler des dizaines de milliers de personnes. La PMA en ligne de mire, actualité oblige, c'est le mot d'ordre de cette année d'ailleurs. Filiation et PMA, marre des lois à minima. Invité de ce journal, Dominique Boren, co-président de l'APGL, Association des parents gays et lesbiens, bonjour.
Bonjour.
Alors la PMA pour toutes les femmes devrait être votée par l'Assemblée en septembre, ça paraît à peu près acquis. C'est une loi à minima, vous le savez déjà ?
Alors, c'est une loi à minima en un sens. C'est une loi à minima. D'abord, c'est une loi d'égalité qui s'inscrit dans la continuité de Mariage pour tous il y a 6 ans. Et ça, on peut quand même saluer que, chemin faisant, l'égalité progresse au fur et à mesure que les gouvernements passent. C'est tout de même une bonne chose. Donc ça, moi, je tiens à saluer et à dire que nous sommes contents et contentes d'avoir cette loi, si elle est votée, évidemment, dans les délais raisonnables et avec des certaines conditions. Après, l'aspect minima, effectivement, il est un peu à souligner parce qu'en fait, le gouvernement a demandé au Conseil d'État de regarder 2 options. Une option dite universaliste qui consisterait à imposer aux homos et aux hétéros une nouvelle mode de filiation avec comme corollaire l'inscription à l'état civil des enfants, leur mode de conception. Une autre option qui consisterait à faire la même chose, mais uniquement pour les couples de lesbiennes. Alors, si c'est l'option du Conseil d'État qui devait prévaler, nous on dit, ben, dans ces cas-là, oui, mais alors il faut que la PMA soit étendue et les conséquences de la filiation de la PMA soient étendues à égalité avec toutes les autres femmes qui viendraient à faire une PMA à l'étranger ou amicale, ou qui viendraient à faire des enfants encore dans d'autres situations, à savoir une coparentalité. Nous, ce qu'on craint, c'est qu'on vienne se servir des homos pour enlever aux hétéros un droit, à savoir établir leur filiation aujourd'hui comme ils peuvent le faire, en imposant une nouvelle modalité de filiation et surtout en marquant les actes de naissance des enfants avec une référence à leur mode de conception. Ça, c'est juste insupportable. Alors, après, pour le reste, on peut souligner quand même, pardonnez-moi, mais oui, égalité, puisque la prise en charge de la sécurité sociale est acquise, voilà. Et oui, en fait, on rentrerait enfin avec une double reconnaissance de la filiation homoparentale.
Alors, cela dit, la PMA pour tous les couples, ça veut dire pour beaucoup GPA, et ça, c'est une ligne rouge, vous le comprenez, ça ?
Alors, d'abord, moi, je ne fais pas du tout l'amalgame PMA et GPA, c'est une chose qui n'a rien à voir aujourd'hui et demain. Pourquoi ? Parce que la PMA est une technique qui est autorisée aujourd'hui, alors que la GPA ne l'est pas. Et puis, fondamentalement, les situations n'ont absolument rien à voir entre elles. Moi, je suis papa GPA, et je peux vous dire qu'en aucune manière, je me permettrais de faire une assimilation entre ce que font les femmes dans un parcours PMA, avec le recueil d'un don fourni par un tiers, et puis ce que nous faisons, nous, dans le cadre d'une GPA. C'est une, à mon avis, c'est une façon de présenter les choses qui peut biaiser, évidemment, le raisonnement, et surtout pour faire peur.
Mais vous comprenez globalement toutes les passions que ces sujets provoquent, comme à l'époque, le mariage pour tous les avait provoquées aussi?
Ah ben je comprends qu'effectivement il y ait lieu à débat et questionnement, personne ne le refuse, personne ne conteste. Maintenant, tout dépend comment ce débat est organisé et évidemment tout dépend quelle résonance on a dans ce débat. S'il s'agit une fois de plus d'être victime des propos et des actes homophobes, je rappelle que les propos homophobes tuent, voilà. L'homophobie ça tue. Et donc si c'est ça, et si c'est pour revivre ça, très honnêtement, je ne les comprendrai pas du tout. Et je pense que c'est pas du tout l'idée du président Macron de donner à entendre les vociférations comme on les a entendues il y a 6 ans. Les choses ont bougé. Hein. Le mariage a été acté, il n'y a pas eu d'effondrement de civilisation, il n'y a pas eu d'effondrement de quoi que ce soit, les familles se sont mariées. Et donc aujourd'hui, on rentre dans une espèce de normalité. Sauf que cette normalité, elle ne doit pas se faire à minima. Donc effectivement, il faut une filiation qui reconnaisse la double filiation homoparentale sans restriction.
Dominique Borren, co-président de l'Association des parents gays et lesbiens. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce 13h. Allez, la meilleure audience de l'année pour TF1 hier soir. Près de 11 millions de téléspectateurs pour le match de Coupe du Monde féminine France-États-Unis, auquel il faut ajouter un peu plus d'un million de personnes sur Canal+. On n'est pas loin des scores de l'année dernière à la même époque pour les garçons. C'est dire l'engouement tout à fait inédit qu'ont suscité les Bleus ES, qui n'iront pas plus loin malheureusement que les quarts de finale, battus 2-1 par les Américaines. La sélectionneuse Corinne Diacre a échoué dans ses objectifs, mais le foot féminin a sans doute gagné ses lettres de noblesse et c'est déjà beaucoup, Guillaume Batin.
Lorsque Corinne Diacre signe son contrat de sélectionneuse avec Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, elle s'engage à amener les Bleus en finale de la Coupe du Monde. Elle dispose alors de 2 ans de matchs amicaux pour bâtir son équipe. L'élimination en quart de finale est un échec et elle le reconnaît.
On est loin de notre objectif. C'est un échec sportif. Maintenant, j'espère que l'on a gagné autre chose ce soir et depuis le début de la compétition, c'est-à-dire le cœur des gens. J'espère surtout que ça va aider notre discipline à franchir encore un cap, à franchir encore un palier. On a vu qu'on n'était pas très très loin des États-Unis, mais c'est encore pas suffisant. Ça, effectivement, je peux pas vous l'enlever, c'est sûr.
Corinne Diacre ne compte pas quitter son poste. Elle est en contrat jusqu'en 2021 avec la fédération.
Je suis pas du genre à renoncer. Le président m'a fait confiance sur un bail assez long. Maintenant, c'est lui à qui revient cette décision. Maintenant, on a beaucoup de choses encore à faire, j'espère, ensemble.
Éliminé de la Coupe du Monde, loin de son objectif, les Bleus ne sont pas qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est la double peine. La prochaine compétition officielle, ce sera l'Euro en 2021 en Angleterre.
Et les deux derniers quarts de finale sont à suivre cet après-midi. Italie, Pays-Bas, 15h. Allemagne, Suède, 18h30. Pour terminer, direction le Centre Pompidou à Paris. Elle fut l'une des muses de Picasso, Dora Maar, mais cette fois c'est à l'artiste qu'elle était aussi que le Centre Pompidou rend hommage en exposant quelques 400 de ses œuvres. Dora Maar, peintre et photographe proche du mouvement surréaliste et politiquement engagé, c'est le Conseil Culture d'Isabelle Pasquier.
Dora Maar, c'est la célèbre femme qui pleure, un chef-d'œuvre de Picasso, des yeux, un visage ravagé par le chagrin. Mais avant leur relation passionnelle, Dora Maar était une photographe surréaliste reconnue avec de très étranges photomontage. Dans l'expo, un portrait d'Ubu avec un fœtus de tatou, une main de femme qui sort d'un coquillage. L'érotisme et la satire traversent souvent son regard. Damaris Amao est co-commissaire de l'expo.
C'est vrai qu'elle joue avec les codes du sex appeal, elle déconstruit les corps en soulignant aussi leur sensualité. Par exemple, dans le photomontage, on voit une femme qui chevauche dans une scène assez étrange, assez érotique, un homme, et on voit un petit garçon qui les observe. Le titre est assez explicite, Jeux interdits. Donc ce jeu, voilà, sur le voyeurisme, sur la luxure dans les appartements bourgeois. Donc elle a un regard comme ça assez critique, assez ironique et en même temps, on sent son appétence aussi à traiter et cette liberté.
Pendant sa vie avec Picasso, Dora Maar va photographier la création de Guernica. À son contact, elle se remet à la peinture. Leur rupture va la précipiter dans une grave dépression. Recluse, elle vivra dans le mysticisme et des créations abstraites entre photos et peintures. Pourtant, dans le dénuement, elle ne se séparera d'aucune œuvre de Picasso. Elle restera la femme qui pleure.
Exposition Dora Maar, c'est jusqu'au 29 juillet au Centre Pompidou à Paris. Autre conseil pour les amateurs de cinéma cette fois. D'abord une brocante, demain au port de Solferino à Paris dans le 7e, des affiches de films, des DVD, des photos de tournage dans le cadre bien sûr de la fête du cinéma. Et puis dans cette même fête du cinéma, on peut voir partout en France des films à 4 euros la séance. C'est jusqu'à mercredi, ne pas l'oublier et ne pas louper surtout le tout premier film de Monia Chokri, La femme de mon frère. C'est un film France Inter. Le temps.